Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, réforme pénitentiaire, l'impossible chantier politique. Imaginez-vous enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés avec deux autres personnes et seulement 2 heures de sortie chaque jour, essentiellement concentré sur la musculation, les douches où vous ne laveriez même pas un chien tant elles sont infectées par le salpêtre, et la promenade où le plafond vous tombe quasiment sur la tête. Quant à la salle de parloir, imaginez une pièce avec des chaises et des tables en plastique où vous entassez 140 personnes. C'est une salle où l'on a l'impression qu'un TGV passe en permanence tellement c'est bruyant. Ces mots, ce sont ceux de Patrick Hurly, gardien syndiqué force ouvrière à la prison de Nîmes, prison que Manuel Valls et le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas ont visité il y a une semaine en promettant un plan contre la surpopulation carcérale pour cet automne, un plan, je cite, spécifique, concret, précis. La France atteint aujourd'hui le record de son histoire avec 69 375 personnes incarcérées au 1er juillet pour 58 311 places, 2 ans après la réforme pénitentiaire de Christiane Taubira. On peut constater que sa mise en œuvre prend du temps. Le nombre de personnes incarcérées a donc augmenté de quasiment 4% rien qu'en un an. Alors certes, le contexte sécuritaire de l'état d'urgence dans lequel nous vivons depuis 9 mois n'aide pas vraiment à pousser la voix de ceux qui militent pour des peines en milieu ouvert, mais on peut aussi se poser la question de ce qu'ont changé 4 lois en 10 ans contre la récidive. Si la prison est supposée immobile, écrit Jeanne Chabal dans son essai « Changer la prison », le Parlement français semble quant à lui présenter tous les attributs de l'impuissance. Que peut l'État face à ce constat d'un système pénitentiaire parfois coincé dans ses archaïsmes, réforme pénitentiaire, l'impossible chantier politique, c'est notre sujet du jour. 4 invités pour en parler ce soir. Stéphane Jacot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien secrétaire national de l'UMP. À l'époque, vous étiez en charge des politiques pénitentiaires et des prisons. Vous êtes maintenant membre de l'équipe de campagne d'Alain Juppé. Vous êtes spécialisé sur les questions de justice. C'est en vue de l'élection présidentielle. Et vous avez publié l'année dernière avec le député socialiste Dominique Rimbourg, Prison, le choix de la raison, aux éditions Economica. En face de vous, Tony Ferry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de l'étude du monde carcéral et du placement sous surveillance électronique et vous êtes conseiller d'insertion et de probation en milieu ouvert et vous venez de publier aux éditions Bréal Emprisonné et surveillé vers la normalisation du placement sous surveillance électronique. Au téléphone, Adeline Azan est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du Parti Socialiste, contrôleur général des lieux de privation de liberté depuis 2 ans. Et enfin, Jeanne Chabal est avec nous aussi au téléphone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez publié cette année « Changer la prison, rôle et enjeux parlementaires » aux éditions des presses universitaires de Rennes. Alors comme je le disais à l'instant, la semaine dernière, Manuel Valls et le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, ont visité la prison de Nîmes, prison qui détient 406 détenus pour 192 places. C'est un record dans le paysage carcéral français. Manuel Valls a déclaré qu'il annonçait pour l'automne un plan spécifique pour alléger cette population carcérale dans la prison de Nîmes. Un autre plan 2 ans après la réforme pénale de Christiane Taubira, dont on va parler en détail dans quelques instants. Mais déjà, une première question. Qu'est-ce qu'elles ont manqué, ces dernières réformes du système pénitentiaire? Est-ce qu'il y a une question qu'on a oublié de se poser, Tony Ferry?
Je pense, moi, de mon point de vue, donc, que pour entrer dans une réforme pénale ou pénitentiaire plus précisément, il conviendrait au préalable de savoir ce qu'on veut faire exactement. Qu'est-ce que ça veut dire une réforme? Est-ce que ça veut dire on remet tout sur table et on repart à zéro, ou alors on utilise l'existant et on essaie de faire autrement mais avec le même? Qu'est-ce que ça veut dire une réforme? Voilà. Ça, c'est la première question que vraiment j'aurais envie de poser. Et sinon, ce qu'elle a pu manquer, la réforme, si elle a manqué des choses, moi je dirais, je crois que ce serait d'associer bien davantage encore la société civile aux pénalités. Voilà. Je pense qu'il y a eu un effort fait par Christiane Taubira. Historiquement, c'est quand même assez clair dans sa loi. Mais après, la question se pose de savoir quels sont les relais sur le terrain et comment ça peut s'appliquer et comment est-ce qu'on peut développer cela.
Parce que c'est pas assez clair aujourd'hui.
Ce n'est pas assez clair, ce n'est pas assez, il me semble, assez développé. Je crois qu'il conviendrait de réétudier la question de l'association de la société civile dans le domaine pénal et pénitentiaire, dans le système des condamnations, de sorte que le but, ce soit vraiment de mettre à distance l'enfermement de type prison, quoi.
Voilà. Sur cette question, Stéphane Jacquot, mettre à distance l'enfermement, est-ce que c'est aussi votre position? Est-ce que c'est une question que ne posent pas assez les réformes du système pénitentiaire aujourd'hui?
Moi, je voudrais répondre à votre première question quand vous posez cette question sur pour faire une réforme efficace, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord se poser la question de ce qu'est la prison. La prison, elle a une mission essentielle, principale. D'une part, c'est de réinsérer une personne condamnée. Parfois de protéger, comme on le voit, lorsqu'une personne est prévenue, mais sa première mission, c'est de réinsérer. Sa deuxième mission, c'est aussi de protéger la société. Quand il y a un risque, quand il y a une menace, on le voit bien en ce moment, on remet sur la table le débat de la prison avec l'état d'urgence, et quelles sont d'ailleurs les propositions, je ne parle pas de propositions de parti ou de... Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans l'état d'urgence avec la prison? Et il y a aussi une avancée. Je pense que le premier pas avant la réforme Taubira a été la loi pénitentiaire en 2009, qui a été votée à l'époque avec une forte majorité, qui était de dire la peine de prison doit rester l'ultime solution. C'est-à-dire que on est passé vraiment par tous les mécanismes avant de condamner une personne à une peine de prison. Et malheureusement, et on va avoir l'occasion de débattre, d'approfondir ce... Le politique est pris par l'actualité, qui fait que, du coup, emprisonné par l'actualité, il faut qu'il réagisse. Et je pense que ça a été le cas notamment de Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs a été souvent emprisonné par cette question d'actualité. C'est-à-dire, il y a un fait divers parfois, il faut une loi. Eh bien, je pense que le politique est souvent emprisonné par ça, c'est-à-dire par l'actualité qui monte en puissance. Il faut réagir rapidement, donc on réagit rapidement. Et on se retrouve d'ailleurs sur tout un tas de plans avec... tout un tas de lois qui restent parfois inapplicables et donc du coup avec un politique qui répond dans l'urgence.
C'est un peu, ça rejoint un petit peu ce que vous écrivez, Jeanne Chabal, dans votre livre, au début de votre livre « Changer la prison ». Vous écrivez « Les gardes des Sceaux qui se sont succédés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale se sont surtout saisis de la prison dans des contextes de crise ». Vous parlez de décisions, de leurs décisions qui ne reflètent ni des engagements politiques significatifs, ni des orientations claires et qui sont marquées par des oscillations permanentes entre le durcissement et l'humanisation des conditions de détention. Est-ce que c'est un constat qu'on peut encore faire aujourd'hui?
Alors,
Jeanne Chabal.
Alors je ne pense pas, parce que je pense que depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment eu une prise de conscience politique, prise de conscience de l'intérêt de s'interroger sur le sens de la peine et l'efficacité de l'institution pénitentiaire. Donc je pense qu'on n'est plus uniquement dans une gestion de crise. Alors c'est vrai qu'actuellement, on a parlé de la prison de Nîmes, mais on est en cas de surpopulation, donc il paraît que la surpopulation n'a pas été aussi élevée depuis 8 ans. Donc effectivement, c'est une situation dramatique, mais la loi pénitentiaire de 2009 et la loi du 15 août 2014 sur l'individualisation des peines apportent des réponses au-delà de la seule gestion de crise. Alors après, est-ce que ces réformes ont manqué quelque chose? Je pense qu'elles manquent surtout de moyens actuellement pour leur application. Donc on manque de postes de surveillants pénitentiaires, on manque de moyens pour les magistrats et aussi pour les conseillers d'insertion et de probation, pour rendre ces réformes effectives. Et puis, actuellement, on n'a pas forcément besoin de réformes au sens législatif ou réglementaire, mais on a besoin, donc comme le soulignait Stéphane Jacquot, de changer de culture et de ne plus considérer la prison comme la peine de référence, mais comme une peine qui serait une peine parmi d'autres et qui ne serait utilisée qu'en dernier recours lorsqu'elle est vraiment efficace. Voilà, et lorsqu'elle est vraiment efficace, c'est vrai qu'une prison surpeuplée n'est pas efficace, que ce soit en termes de prévention de la récidive ou de préparation à la réinsertion des personnes détenues.
Je voudrais poser la même question du coup à Adeline Hazan. Est-ce que selon vous, les différentes réformes et la dernière en date, celle voulue par l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, entrée en vigueur il y a 2 ans, a oublié de se poser une question, notamment sur la culture justement de l'incarcération, du recours à la prison?
Écoutez, moi, je crois qu'il y a, deux choses dans une conception nouvelle de la prison qu'il faudrait instaurer. La première, c'est que il faut absolument que les droits fondamentaux des personnes détenues soient respectés, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Vous avez cité le nombre de détenus, plus de 69 300 pour 58 300 places. C'est tout à fait exact, bien sûr. Il y a aussi la présence de 1 600 personnes qui dorment sur des matelas. Il faut voir aussi que, en fait, il y a 10 000 détenus de plus qu'il y a 10 ans, malgré les différentes réformes et surtout malgré les différentes phases de construction de prisons. Donc la première des choses, c'est vraiment de faire en sorte que les droits fondamentaux soient respectés, c'est-à-dire que les détenus ne soient plus pris en charge dans des cellules comme celles que moi je vois à longueur d'année, par exemple, avec une escalade aussi de droits fondamentaux qui, du coup, ne sont pas respectés, comme le droit au travail, le droit à la santé, le droit au maintien des liens familiaux. Ça, c'est le premier point, donc faire en sorte que les détenus soient incarcérés en respectant leurs droits. Et puis la deuxième chose, c'est, et là je rejoins tout à fait deux des interlocuteurs qui viennent de parler, c'est de faire en sorte que la prison soit effectivement le dernier recours. Ça a été posé comme un principe législatif dans la loi pénitentiaire de 2009. Cela a été rappelé effectivement dans la loi proposée par Madame Taubira et votée le 15 août 2014. Mais manifestement, ça n'est pas entré dans les esprits. Et c'est ça qui est tout à fait problématique et sur lesquels, je pense, les pouvoirs publics auraient à s'interroger.
Vous dites que ça n'est pas encore entré dans les esprits. C'est justement sur ce point qu'on va poursuivre. Vous dites, Adeline Hazan, que plutôt que de multiplier les réformes pénales, il faudrait plutôt pouvoir déjà appliquer les lois qui existent. Et en l'occurrence, on peut se concentrer sur la contrainte pénale. Une des mesures phares de la réforme Taubira de 2014, c'est une des mesures qui prévoit que les peines qui sont adressées aux adultes et qui durent moins de 5 ans pour un délit impliquent que ce soit des peines en milieu ouvert et que ce soit des peines que les personnes condamnées répondent à des obligations d'aller voir des travailleurs sociaux ou de recevoir des visites ou d'aller voir des médecins pénitentiaires, mais qui ne soient pas emprisonnés. Vous dites qu'il y a un manque, Adeline Hazan, il y a un manque de volonté du système judiciaire à mettre en œuvre cette mesure.
Alors il y a deux choses. La première, c'est effectivement c'est un manque de moyens, c'est-à-dire que quand la loi a été votée, c'est-à-dire en août 2014, ont été également pris comme décision le recrutement, enfin l'augmentation du nombre de surveillants de prison, mais surtout d'éducateurs en prison, de conseillers de probation et également du nombre de magistrats. Cela étant, des postes ont été créés, mais il faut environ 2 années pour recruter et former ces personnels. Et donc, les personnels qui ont été recrutés il y a 2 ans ne sont pas encore, ou tout juste en tout cas, ne sont pas encore dans les établissements qu'ils doivent gérer. Ça, c'est quand même la première chose, c'est la question des moyens. Mais je pense aussi qu'à côté de la question des moyens, il y a une culture de la prison qui reste malheureusement trop prégnante en France, à la différence de certains autres pays voisins, et que c'est un changement de mentalité qu'il faut travailler. Toute réforme, de toute façon, neuve, ça a été le cas du sursis mis à l'épreuve, ça a été le cas de toutes les réformes un peu novatrices, ont demandé du temps pour être absorbées et pratiquées par les magistrats. Mais là, on a le sentiment que, en ce qui concerne la contrainte pénale, par exemple, les magistrats ne voient peut-être pas suffisamment la différence avec le sursis mis à l'épreuve. Peut-être qu'il aurait fallu supprimer à ce moment-là le sursis mis à l'épreuve. En tout cas, c'est ce qui revient et c'est le retour que font les magistrats depuis 2 ans. Et en conséquence de quoi, ils ne prononcent pas, très peu en tout cas, de contraintes pénales, puisque à peu près moins de 1000 par an sont prononcées aujourd'hui.
813 fois entre octobre 2014 et le 30 juin 2016, alors que la loi tablait sur un nombre de contraintes pénales prononcées, y compris entre 8000 et 20000
voilà.
Par an.
Donc ça pose vraiment problème. Le gouvernement d'ailleurs devait au mois d'août, c'est-à-dire ce mois-ci, au mois de juillet, faire un bilan justement après 2 ans d'application. Compte tenu du contexte terroriste, ce bilan a été retardé. Il doit être fait à l'automne, mais il va être vraiment nécessaire de comprendre pourquoi cette loi est si peu ou si mal appliquée.
Sur cette question, Tony Ferry, vous êtes conseiller en service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et donc, vous êtes censé mener les enquêtes de suivi sur les personnes incarcérées de manière à ce que les magistrats prennent leur décision sur cette contrainte pénale. Est-ce qu'on autorise cette personne condamnée à moins de 5 ans de prison pour un délit à ne pas retourner en prison, mais à subir sa peine hors de la prison? Qu'est-ce qui ne marche pas dans l'application de cette contrainte pénale, de votre expérience de terrain?
Oui. Si je puis me permettre, avant de répondre à cette question, je voudrais juste réagir à ce qui a été dit précédemment. Il est vrai que c'est une question cruciale de se poser la question de savoir comment faire pour désengorger les prisons. Mais cette question, elle n'est pas neuve, reconnaissons-le. Le surpeuplement carcéral n'est pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui.
Il atteint un point culminant aujourd'hui.
Il atteint un point culminant. C'est vrai que la France ne cesse de battre ses propres records en termes d'incarcération, alors même qu'il y a de temps à autre des efforts qui sont faits pour essayer de trouver des solutions alternatives. Donc ce surpeuplement, il est endémique, il est assez classique. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent aussi que les magistrats sont plutôt sensibles au fait d'alourdir les sanctions, puisqu'il y a un effet pervers dans le fait qu'on multiplie les possibilités d'aménagement de peine. Eh bien, les magistrats se disent, voilà, comme la peine va être aménagée, on peut y mettre de la peine ferme. Et donc, et puis, si on ne veut pas qu'elle soit aménagée, on va mettre un petit peu plus de peine ferme encore. On va dépasser les 2 ans. Vous savez que, concernant l'article 723.15 du Code de procédure pénale, toute personne qui est condamnée à une peine ferme, une peine d'emprisonnement qui ne dépasse pas 2 ans, à condition qu'elle ne soit pas en situation de récidive, peut voir sa peine aménagée. Donc ça existait déjà, ces alternatives assez importantes. D'ailleurs, avant c'était 1 an, ça a été porté à 2 ans avec la loi Dati en 2009. Donc pour revenir à votre question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec la contrainte pénale? Alors Adine Hazan a effectivement dit qu'il y a une culture, et une culture a changé. Il y a du temps, il faut du temps. C'est vrai, par exemple, avec le TIG, ça a eu en 1980,
Les
travaux d'intérêt général. Lorsque ça a été institué, ça a eu du mal à décoller. Hein. Aujourd'hui, c'est assez rodé, il y en a beaucoup, mais ça a mis du temps. Donc peut-être qu'avec la contrainte pénale, on est dans le même cas. Mais je dirais qu'il y a un autre facteur. C'est que s'il y a des différences entre le SME, le sursis avec mise à l'épreuve, comme ça a été rappelé maintenant, qui est une mesure phare hein, du milieu ouvert, qui a été créée au moment de la création du JAP, hein, du juge d'application des peines en 1958, c'était donc la première mesure de suivi en milieu ouvert. Aujourd'hui, elle reste la mesure phare hein, dans les services. Il faut compter 60 à 70% des mesures qui sont des sursis avec mise à l'épreuve. Donc, dans la mesure où ce dispositif existe déjà, c'est vrai que la contrainte pénale vient un petit peu en concurrence, mais avec un dispositif qui est déjà bien rodé. Et j'ajouterais que sur le plan pratique, là, on est vraiment sur un plan pratique, vraiment, j'en discutais encore avec des collègues, on ne voit pas la différence entre la contrainte pénale et le SME, le sursis avec mise à l'épreuve. Sur le plan pratique, alors sur le plan juridique, effectivement, sur le plan technique, il y a des différences, mais dans la pratique, on est sur un gros SME.
Et le SME, est-ce qu'il permet de désengorger un petit peu les prisons déjà?
Alors, est-ce que le SME... Et non, on le voit, puisque le nombre de personnes incarcérées...
Donc, vous n'avez pas beaucoup d'espoir pour la contrainte pénale?
Non, c'est pas... Il faut faire table rase du système, il faut aller plus avant, hein. Il faut pas que ce soit une réformette, il faut vraiment aller plus avant pour changer en fait de perspective, parce que là, même si la philosophie, je dirais même l'idéologie entre guillemets actuelle, c'est de construire une nouvelle prison, mais il y aura un appel d'air, c'est bien connu, il a déjà été mis en place, c'est-à-dire on va les remplir et le problème se reposera dans quelques années, dans quelques temps, même demain.
Sur cette question de la contrainte pénale, Stéphane Jacquot, est-ce que vous pensez que ce n'est qu'un grain de sable? Est-ce qu'il faut aller plus loin que cette réforme?
Je pense, et tout à l'heure vous parliez du travail d'intérêt général et la difficulté, qui reste encore une difficulté à mettre en place pour la raison suivante. Moi, j'ai été élu local dans ma collectivité, donc en banlieue parisienne, pas très loin d'ici. Il y avait une réelle difficulté pour une collectivité à mettre un travail d'intérêt général, ne serait-ce que par l'encadrement. L'employé municipal veut pas avoir cette charge lourde d'encadrer. Et c'est là aussi, pour certains magistrats, la difficulté de prononcer un tige, puisqu'il n'y en a pas suffisamment. La prison, moi je pense que la réinsertion plutôt doit être l'affaire de tous les citoyens. Elle ne doit pas seulement concerner les collectivités territoriales, il devrait y avoir aussi des missions tiges dans toutes les entreprises. Là aussi, ça serait peut-être une solution, ça serait de développer le travail d'intérêt général. Ça, c'est l'une des solutions.
Des solutions pour quoi ?
Ben, pour justement désengorger nos prisons, qui aujourd'hui sont quand même... Bon, ça touche, il faut savoir quand même que la surpopulation touche en majorité les maisons d'arrêt. Mais là où, un peu à contrario de ce que disait mon collègue, donc il faut malgré tout, aujourd'hui, Madame Azan le citait tout à l'heure, il y a quand même 1600 personnes qui dorment sur des matelas. Et il faut construire
un chiffre qui a augmenté de 60%.
Non. Voilà. Moi, je voudrais expliquer vraiment une expérience personnelle. J'ai visité une fois la maison d'art, enfin la centrale de la santé, qui aujourd'hui est en réhabilitation. Et ce sentiment quand on rentre dans ces murs, où ça sent la mort, ça sent, on est étouffé, on a un sentiment d'angoisse. Mettez-vous à la place de ces gens qui vivent ça, qui rentrent, qui vivent un choc carcéral, qui rentrent dans ces lieux pour la première fois et qu'ils ont juste commis un délit routier. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Une personne commet un délit routier, elle peut se retrouver demain en détention. Ça peut arriver à tout le monde, la détention. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que il y a trop de mélange aussi. C'est ça aussi l'une des raisons qui aujourd'hui, c'est la prison fabrique la récidive parce qu'il y a trop de mélange dans nos prisons. Et aujourd'hui, il faut justement spécialiser. Il y a une notion... Un conseil d'insertion en probation peut nous expliquer ça puisque
c'est ce que vous expliquez par rapport aux terroristes, justement.
Alors, je reviendrai plutôt sur une notion qui est vraiment pratiquée en détention, mais on n'ose pas dire le mot. Ce sont des criminologues. Ils font de la criminologie. En France, on n'ose pas dire ce mot puisqu'on n'a pas cette approche. Il faudrait effectivement se spécialiser par type d'infraction et faire de la criminologie, prendre en charge à l'hôpital. Quand on est malade du cœur, on est pris en charge par la cardiologie.
Se pose toujours la question des moyens.
Bah, le moyen, effectivement, c'est sur du long terme. Sur du long terme, il faut effectivement investir, mais il faut faire peut-être des réformes en écoutant davantage les personnes qui sont sur le terrain, écouter davantage les syndicats, mais aussi écouter les citoyens. Qu'est-ce que vous voulez faire de la prison de demain ? Et je pense que, bien évidemment, il faut recentrer la peine et faire en sorte que cette peine, elle soit aussi prise en charge par le citoyen et proposer davantage de mesures qui soient citoyennes.
Dans votre livre Le choix de la raison que vous avez coécrit avec M. Rimbourg, le député socialiste Dominique Rimbourg, vous dites qu'il faut réfléchir aussi, c'est surtout Dominique Rimbourg qui le dit d'ailleurs, qu'il faut relancer la contrainte pénale. Il faut réfléchir aux moyens de relancer cette contrainte pénale. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut relancer une réforme qui existe déjà ? Est-ce qu'on doit l'améliorer ? Est-ce qu'on doit lui apporter encore d'autres attributs ?
Alors, l'améliorer, tant qu'on n'aura pas suffisamment de personnel aujourd'hui, pour que cette mesure soit effective, il faudrait à peu près 1000 conseillers d'insertion et probation supplémentaires. Je pense que c'est ça à peu près. Mais il y a peut-être justement à se tourner vers... Alors, avec Dominique Rimbourg, on réfléchit à une proposition, c'est de se dire que... Les visiteurs, le principe des visiteurs de prison fonctionne bien. On pourrait imaginer qu'il y ait un tutorat à la sortie de prison. C'est-à-dire que l'accompagnement qui s'est fait à l'intérieur des murs puisse se faire hors les murs. Éventuellement, ça pourrait être un des principes qui pourrait améliorer la contrainte pénale. Qui, dans l'esprit, l'esprit est bon. C'est-à-dire que c'est renforcer l'accompagnement. C'est aussi de faire en sorte que on ne voit pas seulement la peine de prison comme quelque chose qui soit visible et qui est pour le citoyen la seule chose visible, donc effective, mais qu'on puisse aussi avoir d'autres moyens pour s'occuper de la réinsertion d'une personne sortant de prison.
Jeanne Chabal, j'aimerais vous entendre sur cette question de l'évolution des réformes, de l'évolution qu'on doit leur apporter dans le temps et du fait qu'on est dans un temps dans le système pénitentiaire qui n'est pas forcément le même que le temps politique. Vous, dans votre livre, vous racontez comment les parlementaires se sont peu à peu emparés des questions pénitentiaires qui étaient très isolées dans le débat public, qui étaient surtout l'affaire de milieux associatifs et du personnel pénitentiaire. pénitentiaire. Qu'est-ce que ces différentes réformes, je parlais au début de l'émission de 5 réformes en 10 ans sur la récidive, et qu'est-ce que cette nouvelle réforme Taubira, qui est censée désengorger la prison, a apporté au débat sur la surpopulation et sur l'état de la prison aujourd'hui en France?
Alors bon, déjà, enfin, faut dissocier chaque fois la question pénale et la question pénitentiaire, c'est-à-dire que la surpopulation pénitentiaire est vraiment liée à la politique pénale. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire n'a pas de prise ni sur le profil ni sur le nombre des personnes qu'on lui envoie, en fait. Donc la loi pénitentiaire, donc de 2009, a fixé un certain nombre de d'évolutions à ce sujet, mais après il n'y a pas forcément eu de suite, notamment en termes d'aménagement de peine. Donc on en revient toujours à la question des moyens, bien sûr. Et alors la loi Taubira de 2014 apporte un complément intéressant, mais ceci dit, il faut que le changement de culture embraye en fait suite à la loi. Donc il y a en mars de cette année, il y a eu une forte mobilisation de différentes organisations, notamment la Ligue des droits de l'homme, l'ANJAP, la FARAPEJ auprès du garde des Sceaux, pour donner à la contrainte pénale toute sa portée. En fait, au moment des discussions autour du projet de loi Taubira, l'étude d'impact estimait qu'entre 8 000 et 20 000 condamnations par an pouvaient relever de la contrainte pénale. Donc on en est encore déjà loin. Et la contrainte pénale doit être pensée en lien avec les autres moyens de gestion de type donc semi-liberté, travaux d'intérêt généraux dont Stéphane Jacquot parlait. Et il y a également d'autres moyens qui permettent d'aménager davantage les peines. Moi, je pense que, si vous voulez, la prise de conscience politique, elle a été très longue. Il y a une très longue indifférence du Parlement vis-à-vis de la prison et des ministres de la justice successifs vis-à-vis de l'institution pénitentiaire. Mais que maintenant, on est dans une configuration dans laquelle les responsables de politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, se sont vraiment emparés de ce chantier. Mais maintenant, il faut vraiment essayer d'appliquer les choses et d'essayer de faciliter en fait ce changement culturel qui permettrait une application des dernières réformes. Là, actuellement, on est dans une configuration politique qui serait extrêmement favorable à un plan sur les prisons. Alors ensuite, on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dans le plan annoncé par Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas, puisque ils ont dit que ça serait un plan qui serait financé spécifique, mais on ne sait pas trop. Enfin, on suppose que ça va être des constructions de places de prison, mais il ne faudrait pas que ça se limite à ça. On est toujours en tête l'impératif d'efficacité de la prison et le sens de la peine, et faire en sorte que la réinsertion soit réelle et que de l'autre côté la société soit bien protégée contre les effets de la récidive. Mais après, c'est vrai que en politique, une priorité peut en chasser une autre. C'est le principe même
sur cette question des priorités, j'aimerais entendre Adeline Azan.
Oui, justement, moi, ce que je voulais indiquer, c'est que il est aussi très important de concevoir la période de l'incarcération autrement que la façon dont elle est conçue actuellement. C'est-à-dire que, un interlocuteur l'a dit tout à l'heure, l'incarcération, ça doit d'abord être un moyen de réinsertion. Mais ça ne peut pas actuellement être un moyen de réinsertion, évidemment du fait des conditions de prise en charge qui sont ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi parce que le travail en prison, la formation professionnelle en prison, les activités en prison, l'enseignement en prison, tout cela n'est absolument pas satisfaisant, au-delà même, bien sûr, des conséquences de la surpopulation pénale. Très peu de détenus peuvent travailler, que ce soit en service général, c'est-à-dire pour s'occuper de la prison, ou bien en atelier de production, parce que les entreprises fournissent de moins en moins de travail, probablement aussi du fait des contraintes que cela leur impose d'apporter du travail en prison, même si pour les entreprises c'est intéressant. Mais il faut absolument développer la question du travail en prison, au même titre d'ailleurs qu'il faut en développer les droits pour les détenus qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. La formation professionnelle en prison est quelque chose qui ne se fait pas non plus de façon intéressante et satisfaisante. Les activités sont très souvent inexistantes et l'enseignement l'est également. vous parliez tout à l'heure de 22 heures en cellule sur 24, malheureusement, c'est encore trop souvent le cas. C'est-à-dire que,
oui, c'est un constat très récent.
Dans les évidemment pas dans les établissements pour peine, c'est-à-dire de longue peine, mais pour les maisons d'arrêt, très souvent, les détenus n'ont droit qu'à deux heures obligatoires de promenade par jour, et c'est tout. Le reste du temps, ils sont enfermés dans des cellules. Donc comment peut-on imaginer qu'un détenu puisse se réinsérer? Il va sortir avec une peine, à l'issue de sa peine, et il n'aura pas été dans un état différent de celui dans lequel il était quand il est entré. Or, il faut bien se dire et redire que le fait qu'un détenu puisse se réinsérer normalement à sa sortie de prison, c'est positif évidemment pour lui, mais c'est également positif pour la société.
Sur cette question de la réinsertion, j'aimerais entendre Stéphane Jacot, parce que vous, dans votre livre, vous dites pour une agence nationale de l'activité des personnes sous main de justice. Ce serait, vous imaginez, une agence qui recenserait les compétences de chaque détenu, et à partir de la fusion d'une structure déjà existante, donc qui était déjà la régie industrielle. Comment, dans ce contexte budgétaire et dans ce contexte de blocage, parce qu'on voit bien que il y a pas mal d'idées qui circulent tant sur la scène politique que dans le milieu des personnels pénitentiaires sur la réinsertion et ce que doit être la prison aujourd'hui, mais comment dans ce contexte une telle idée peut naître?
Alors effectivement, il s'agirait de modifier un peu les missions de la RIEP. Il ne s'agirait pas seulement de proposer des missions, alors on parle du travail, on parle aussi de la formation à des personnes détenues, mais aussi à des personnes condamnées dans l'ensemble. C'est-à-dire que ce serait une agence qui s'occuperait du travail pour les personnes placées sous main de justice. Hein, ce qui sous-entendrait également que cette agence serait un peu à l'image de l'agence du service civique, amenée à développer le travail d'intérêt général et également donc le travail en détention. Le contexte budgétaire est là. On est capable, on l'a bien vu avec les propositions de Manuel Valls, de trouver un budget quand il est nécessaire de construire des places de prison. Or, je pense qu'on est tous d'accord, intervenants que nous sommes là sur la question, il y a bien des personnes qui n'ont pas leur place en prison, donc qui seraient plutôt, il faudrait donner davantage de sens à leur peine en faisant un travail de réparation dans une collectivité, par exemple, plutôt que d'aller en prison. Alors, effectivement, la question est là. Est-ce qu'on construit 10 000 places de prison? 20 000 places, c'est excessif. Est-ce qu'on construit 5 000? Moi, je pense qu'effectivement, plutôt que d'investir davantage dans les places de prison, on devrait développer un budget sur le volet réinsertion. C'est indispensable. Alors, on est dans un phénomène d'état d'urgence. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des réponses. Le gouvernement doit apporter des réponses. On pourra évoquer la question après. Mais je pense qu'il faut développer et que le budget soit davantage tourné vers le volet réinsertion.
France Culture. Du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Réforme pénitentiaire, l'impossible chantier politique. Nous en parlons ce soir avec Stéphane Jacot, ancien secrétaire général de l'UMP, membre de l'équipe de campagne d'Alain Juppé sur les questions de justice et de prison, avec le philosophe Tony Ferry aussi, la contrôleur générale des lieux de privation et de liberté Adeline Azan et la chercheuse docteur en sciences politiques Jeanne Chabal. Alors, vous parliez justement de Stéphane Jacot, de la construction de places supplémentaires en prison qui pourraient, pensons-nous, dans un premier temps, régler en partie la question de la surpopulation carcérale seulement. Est-ce que c'est le cas, Jeanne Chabal? Est-ce que c'est en construisant plus de places dans les prisons, comme c'est en projet à la prison de Nîmes, par exemple, qu'on peut régler le problème de la surpopulation carcérale?
Alors, a priori non. Alors moi, dans le cadre de mes recherches, j'avais trouvé des documents à l'époque du groupe d'information sur les prisons dans les années 70. Et à l'époque, on dénonçait déjà la surpopulation carcérale. Donc depuis, il y a eu plusieurs plans de construction de prisons, dont certains sont connus, comme le plan Chalandon, par exemple, sur les prisons privées, et le plan Magnerie. Mais il n'empêche que la surpopulation est toujours là plusieurs décennies après, et qu'elle serait même de plus en plus importante. On a plutôt l'impression que plus on construit, en fait, plus on remplit. Donc il vaudrait mieux agir à la fois sur l'amont et sur l'aval en aménageant les peines et en recourant à la contrainte pénale plutôt que continuer à construire. C'est presque inciter à l'incarcération.
Tony Ferry, sur cette question, vous, je vous voyais réagir.
Oui, effectivement, moi j'irais dans le sens de ce qui vient d'être dit. La question se pose de savoir qui on met en prison. Il faut aussi aller à côté ou à l'encontre de la fantasmagorie. N'oublions pas que 80% des prisonniers, c'est la petite ou moyenne délinquance. Ce ne sont pas des criminels de sang avec le couteau entre les dents qui vont vous menacer du jour au lendemain. Il y a cette fantasmagorie contre laquelle il faut lutter aussi pour avancer, pour essayer de développer des mesures en milieu ouvert. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est... Il me semble qu'on peut reposer la question de l'utopie pénitentiaire. C'est pas un terme qui vient de moi, mais ça vient de philosophes, Michel Foucault, et puis de toutes les études qui ont été menées dès la création de la prison pour peine au lendemain de la Révolution française. Enfin, elle s'est consolidée au début du 19e siècle, elle s'est mise en place et sophistiquée tout au long du 19e siècle. C'est une peine assez récente, la prison pour peine. Au départ, on pensait que la prison, les philanthropes de l'époque, pensaient que la prison allait transformer l'individu. Ça allait, il va y avoir un miracle. Finalement, l'individu va être transformé, va être réhabilité, réinséré.
Dans le sens que l'on croit, oui.
Voilà. Ça a vite fait long feu. Il y a des écrits, on retrouve effectivement des écrits des philanthropes. Voilà, ils disent, en réalité, c'est tout le contraire. Ça ne transforme pas l'individu, mais au contraire, ou si ça le transforme, il devient pire. Parce que ça développe le caïda, la violence, ça endurcit. Simplement, il faut imaginer que les prisonniers, ils se sentent dans un milieu hostile, ils ne se sentent pas respectés. Alors, ils vont pas respecter le lieu dans lequel ils sont, puisqu'ils ne se sentent pas respectés. Donc, il va y avoir une accélération des dégradations, etc., etc. Donc, on peut multiplier les remarques, mais la prison, effectivement, c'est pas la meilleure des solutions pour la petite et moyenne délinquance. Alors, bien sûr, ça, il faut le souligner. Or, aujourd'hui, elle est et elle reste la peine de référence, et ce n'est pas en faisant des réformettes qu'on va arriver, malheureusement, à aller contre cela. Mais n'oublions pas de le souligner.
On va poursuivre justement sur cette idée. Juste avant, je voudrais entendre Adeline Hazan sur une question. Le fait que... Voilà, on est dans le cadre d'une réforme du système pénitentiaire qui met l'accent sur l'individualisation des peines, sur le suivi, sur la sortie de la prison. Et pourtant, dans ce contexte d'état d'urgence, on observe aussi que l'ensemble des aménagements des peines a baissé de 3% en un an. Ça, c'est une observation de la présidente de l'Observatoire international des prisons, Delphine Boezel. Comment est-ce qu'on peut dépasser ce paradoxe qui fait que sur des textes de loi, on va vers un progrès évident, et pourtant dans les faits, on n'arrive toujours pas à surpasser, à dépasser ce problème qui traverse les années, qui est la surpopulation carcérale et l'absence de suivi à la sortie.
Oui, bien sûr, parce que bien évidemment, le contexte que nous vivons actuellement, et notamment le contexte dû aux attentats qui ont frappé le pays, ont une incidence sur la demande de sécurité que peut avoir l'opinion publique, mais ils ont également une incidence sur la façon dont les magistrats prennent leurs décisions. Et je le vois, nous le voyons avec mon équipe, quand nous visitons les prisons, nous entendons maintenant de plus en plus de surveillants qui eux-mêmes regrettent que aussi peu de permissions de sortir, par exemple, soient prononcées par les juges d'application des peines, en tout cas moins que ça ne l'était il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et non seulement c'est nocif pour la personne qui peut avoir besoin, pour des raisons familiales ou professionnelles, de sortir, mais en outre, ça attise les tensions au sein du milieu carcéral. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut aussi que les magistrats puissent travailler, c'est-à-dire parvenir à rester imperméables dans leurs décisions, en tout cas au contexte qui est celui que nous vivons actuellement, même si c'est tout à fait difficile. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la question de savoir si construire de nouvelles places réglera le problème de la surpopulation carcérale. Je suis absolument convaincue que non. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder effectivement ce qui s'est passé dans les 4-5 dernières décennies. On a construit toujours plus de places, et je citais tout à l'heure le chiffre de 10 000 détenus de plus qu'il y a 10 ans. Cela prouve bien que plus on en construit, plus elles seront remplies. Et puis je crois, on ne l'a pas abordé au cours de cette émission, mais je crois aussi qu'il faut que les pouvoirs publics s'interrogent sur le sens des très courtes peines, car les prisons sont aussi peuplées de personnes, outre, je partage tout à fait la réflexion qui a été faite sur les infractions routières, mais outre les infractions routières, sur des très courtes peines d'un mois ou deux mois d'emprisonnement, qui présentent en outre le risque de désinsérer encore plus la personne qui est condamnée, parce qu'elle risque de perdre son travail, son logement, ses liens familiaux, pour une peine de un mois ou deux. Là aussi, il est vraiment urgent que des alternatives soient prononcées.
Mais alors, de réformer les peines, oui.
Oui, mais peut-être qu'il faudrait aussi, justement, dire que des peines d'un mois ou deux mois de prison ne doivent pas être prononcées pour tel ou tel délit.
Alors justement, dans le sens de ce que vous dites, Adeline Hazan, j'aimerais qu'on consacre les dernières minutes de ce débat à ce que vous évoquiez au début de l'émission Tony Ferry, c'est-à-dire repenser totalement le système carcéral. Vous, Stéphane Jacquot, dans votre livre que vous avez coécrit avec Dominique Rimbourg, vous écrivez socialement, la prison est la seule peine visible. Et elle correspond à cette. C'est l'incompréhension du travail de la justice qui renforce le rôle de la prison, dites-vous. Alors, par quoi doit-elle passer cette clarification de la justice pour éviter la casse-prison ?
Je pense que dans le mot justice, c'est-à-dire, qu'est-ce que la justice d'abord ? La justice, c'est une décision qui vient se poser quand il y a un équilibre rompu. La société intervient pour rétablir cet équilibre. Je crois que il faut impérativement aller tendre vers une culture de la réhabilitation. C'est-à-dire que, effectivement, se dire que nous avons dans notre arsenal judiciaire plein de sanctions possibles, plein de réponses pénales possibles, et donc se tourner vers ces possibilités-là et faire en sorte qu'il y ait davantage de réhabilitation, qu'on aille vers une culture de la réhabilitation et qu'on voit d'autres condamnations que la prison. Et que ce soit possible, par exemple, par le travail d'intérêt général. Voilà.
Jeanne Chabal, est-ce que cette question de la réhabilitation est envisageable, enfin, est-ce qu'on peut envisager de la remettre au centre du débat sur le système pénitentiaire aujourd'hui ?
Oui, absolument. Il faut juste que le discours politique soit clair et pédagogique vis-à-vis du citoyen. C'est-à-dire, on approche d'une année électorale là pour 2017. Il faut vraiment que nos responsables politiques aient un discours qui ne soit pas démagogique vis-à-vis de la prison et qu'ils expliquent très clairement ce qui peut être efficace pour lutter contre la délinquance. Donc, faut vraiment avoir ce discours honnête et pédagogique sur le plan politique pour pouvoir parler de réhabilitation et la remettre au cœur du débat.
Est-ce que c'est possible, ça, Tony Ferry, avoir cette honnêteté dans le discours politique ?
Elle est primordiale, mais est-ce qu'elle sera appliquée ? Ça, je ne le sais pas, moi je ne suis pas un politique.
Vous parliez tout à l'heure, au début de l'émission, plutôt de remettre le citoyen au cœur du débat.
Oui, absolument. Alors par exemple, j'ai une proposition à faire. C'est une porte, mais qu'on peut étudier, pourquoi pas. Il existe un aménagement de peine aujourd'hui qui est très peu utilisé, c'est le placement à l'extérieur. Il est très peu utilisé par rapport au placement sous surveillance électronique, par rapport au bracelet. Il faut dire que le placement à l'extérieur est plus coûteux que le placement sous surveillance électronique, mais beaucoup moins coûteux qu'une place de prison. Donc pourquoi ne pas développer une prise en charge et une forme de pénalité qui soit adossée justement à ce qui se passe avec le placement à l'extérieur. Parce que le placement à l'extérieur, c'est vraiment le partenariat entre le ministère de la Justice et puis des associations de la société civile dans lesquelles on va trouver des éducateurs, des psychologues, etc. et qui interviennent pour accompagner effectivement en renfort les personnes qui ont été condamnées et donc pour les aider à retrouver un logement. Déjà, il y a un hébergement qui peut être fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, c'est une porte. J'ai envie d'ouvrir cette porte-là pour dire, voilà, pourquoi ne pas repenser à une forme de centre, on ne va pas dire des corps, mais quelque chose qui soit lié justement un petit peu à ce qui se passe avec le placement à l'extérieur. C'est beaucoup plus prometteur et il y a plus de réussite, plus de chance, même s'il n'y a pas de solution miracle pour la réinsertion.
Et pour finir, on peut aussi citer les propos de votre livre, Stéphane Jacquot, que le chantier est immense et qu'il est devant nous. Merci à vous tous, Stéphane Jacquot, Tony Ferry, Jeanne Chabal, Adeline Hazan d'avoir été avec nous ce soir. Les références de vos livres, des liens pour enrichir le débat, vous pouvez les retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre d'été, comme l'émission que vous pourrez réécouter, podcaster. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Chloé Leblanc, Philippine Lebray, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, Milena Elig à la réalisation. Et ce soir à la prise de son, c'était David Federman.